France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux lieux et aux événements qui relient les Français. Quels sont les moments dans l'année qui nous donnent l'occasion de nous rassembler? Un petit café au bar? Un tour au marché, dans les tribunes d'un match de football ou bien sur le canapé d'une discothèque? Quels sont les lieux qui résistent à notre individualisme connecté? À quel moment faisons-nous encore société, quelles que soient les générations et les classes sociales? Eh bien, on va donc interroger ce soir le sentiment d'appartenir à une même communauté. Et on va s'appuyer pour cela sur la récente enquête réalisée par Destin Commun, publiée dans La Croix. Enquête qui révèle que 8 Français sur 10 se disent fiers d'être Français. Alors on verra à quel point l'attachement à notre pays fait partie donc des valeurs qui nous relient. Un constat qui va à l'encontre de l'idée d'un pays fragmenté. Mais contrairement à une idée reçue du moment, les Français auraient donc beaucoup plus de choses en commun qu'il n'y paraît. C'est le thème d'une semaine en France. On en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Et parmi les grands marqueurs de ce vivre ensemble en France, on trouve le bar tabac PMU. Nous sommes en ligne au Mans, vous entendez l'ambiance du bar, avec le patron du bar PMU, le Bellino 2. Bonsoir Cédric Legui.
Bonsoir monsieur.
On entend l'ambiance, mais merci, très bien. Dites-nous en quoi votre établissement est important pour les habitants du quartier ?
Alors, pour trouver un lien social, tous les gens, en fait, essayent de trouver un moment de discussion. Ça peut être, ça parle de chevaux ici, ça parle de politique, ça parle un peu de tout en général, ça parle de sport, ça parle de tout, et je pense qu'ils ont besoin, tous les gens, de mariage aussi, bien sûr. Tous les gens, en fait, recherchent un moment pour parler avec un autre, quoi.
Et on entend bien que le bar fait le plein, hein, le vendredi soir, notamment. C'est parce que vous êtes vous-même un habitant du quartier que vous avez voulu racheter ce bar PMU qui était en vente il y a 2 ans ?
Oui, ça fait 15 ans que j'habite dans le quartier et on avait besoin d'un peu de redynamiser un peu le quartier. J'ai essayé de faire le maximum pour redynamiser. J'ai emmené des éléments supplémentaires qu'il n'y avait pas à ce bar, comme la presse qui n'existait pas, que les colis. Aujourd'hui, on est obligé de travailler avec les colis qui n'existaient pas. Je fais quelques pizzas, les Amigos, la FDJ, le PMU qui existait déjà, mais j'ai emmené plus de services. Plus de services en plus, quoi. Mais
c'est essentiellement une clientèle d'habitués. Quel rapport entretenez-vous avec chacun ?
Les habitués, en général, on connaît toute leur vie. On est là pour. Moi, je dis souvent, on est. Oh, je dis souvent, on est le coiffeur de ces messieurs, en fait, ouais. Au bar. On connaît quasi toute leur vie, tous les problèmes, les soucis qu'ils ont. Et ça fait partie du métier de commerçant aujourd'hui. Hein.
Oui. Vous êtes le taulier. Quel type d'incarnation, quel type de patron êtes-vous ?
Je dirais plutôt gentil et cool. J'aime bien me présenter comme gentil. Je suis toujours à essayer d'aider les autres. J'ai toujours été comme ça.
Et vous n'êtes pas seulement le patron du bar. Vous avez un rôle dans ce quartier. Comment définiriez-vous votre rôle, le rôle du patron de bar dans la société ?
Aujourd'hui, je dirais qu'on est quasi des psys, des fois. Des fois, à ce point-là, quoi, je dis ça souvent à mes clients, mais aujourd'hui, les clients, ils cherchent un moment de convivialité, et c'est ce qu'on leur apporte, je pense. La convivialité qu'ils recherchent, qu'ils n'ont pas des fois chez eux. Il y a beaucoup de personnes seules qu'on rencontre qui ont besoin de nous, donc c'est important.
Je précise que vous êtes ouvert tous les jours, votre bar PMU. Est-ce que ça n'empiète pas trop sur votre vie privée ?
Bien sûr que ça empiète, mais obligatoirement, mes enfants, ma femme, tout le monde aime le commerce. Moi, toute ma famille était commerçant, je suis né dans le commerce aussi. Donc, le commerce, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est toujours ce que je dis à mes clients. J'ai dit, si quelqu'un qui n'a jamais fait de commerce et qui se lance dans le commerce, c'est compliqué.
Vous connaissez peut-être la phrase de Balzac, hein, le café, c'est le parlement du peuple. Là où s'expriment les opinions les plus diverses, vous disiez, mes clients parlent de tout, ils parlent même de politique.
bien sûr, ils parlent de politique. Nous, on regarde un avis, le nôtre, par contre, on dit le nôtre en tant que patron de bar. Notre avis, on le dit pas, mais par contre, on écoute toujours les clients. On écoute toujours les clients en rapport à ça. Donc, ils ont un avis complètement différé. Hein. Surtout ici, dans un bar PMU, aujourd'hui, on a tout âge, c'est diversifié, les clients, on peut même pas imaginer tellement que c'est diversifié. On a beaucoup de personnes d'origine étrangère aussi qui viennent. Donc, tout le monde se rassemble, en fait, il n'y a pas spécialement de différence ici.
Et comment vous voyez l'évolution de votre métier de patron de bar PMU ?
Je pense qu'on va avoir une belle évolution petit à petit. Les gens ont de plus en plus besoin de se retrouver. Avec tout ce qu'on a vécu, le Covid, tout ça et tout, je pense que les gens ont beaucoup de... Je pense qu'on a besoin. Tout le monde a besoin de se retrouver.
Et on a bien senti...
Ouais, moi-même, j'avais besoin, parce que moi, je suis passé par des expériences assez dures. Et moi, j'avais besoin du contact des gens aussi.
Et on sent bien, à travers votre témoignage, que vous êtes auprès de vos clients. Et on entend toujours cette belle ambiance. Merci beaucoup, Cédric Legui, patron du bar PMU. Le Bellino 2, c'est au Mans. Alors, parmi les lieux qui réunissent les Français chaque semaine, il y a aussi le marché du dimanche, par exemple. Au-delà des emplettes, c'est aussi de la convivialité au kilo que l'on vient chercher. Un exemple, nous partons à Lille, au hasard des étals du marché de Oisem. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
Sympa.
Allez, mimosa extra. Voilà, cueilli ce matin dans mon jardin. À 5 euros la botte.
Pardon, madame. Vous avez craqué pour les mimosas ?
Oui. Pour moi, c'est un temps suspendu de venir dans ce marché.
Pourquoi temps suspendu ?
Je suis ailleurs. Je ne sais même pas où est mon téléphone. Comme vous pouvez voir, les gens ne se connaissent pas forcément, mais tout le monde se parle.
Ça fait du bien.
Complètement.
C'est la rencontre.
Et malheureusement, c'est de plus en plus rare.
Allez, messieurs, dames, ici, dans les oranges sans pépins, banane sans pépins.
Les écrans tuent. Il faut arrêter tout ce qui est téléphone, tout ce qui est Snap, tout ce qui est tout ce que vous voulez, réseaux sociaux.
Faut arrêter. Et pourquoi ?
Parce que les gens ne communiquent plus ensemble. Ils ne savent plus dire bonjour. Ils ne savent plus dire bonjour à une personne âgée. Ils ne savent plus sourire. Ils ne savent que sourire au téléphone. Au revoir et merci, monsieur. On est être humain. On a besoin de parler avec des gens, de rigoler avec des gens. On ne va pas rigoler avec un téléphone. Est-ce que le téléphone répond ? Non. À part si vous avez l'IA. Mais je suis désolé. Le marché, c'est donnant. On joue, on rigole, on blague. C'est ça qui est convivial. C'est ça qui fait le charme du marché.
C'est pas cher.
Ça va le commerce ?
Ouais, ça va.
C'est quelle radio ?
France Inter.
Salut France Inter. Regarde comment ils sont magnifiques mes clients.
Excusez-moi mesdames. Je fais un reportage sur le manque de convivialité aujourd'hui en France. Monsieur me disait, le lieu typique où on la retrouve, cette convivialité, c'est bien le marché.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a un moment plus de partage par rapport au smartphone. On est vraiment dans la réalité par le biais des expressions de visage. C'est vraiment plus concret.
Monsieur, dame, qui montent les lourds ?
Avant, il y avait beaucoup plus d'endroits où les gens pouvaient se retrouver, rien que les bistrots, hein, sans être péjoratif. Un bistrot, c'était un endroit où toutes les générations se retrouvaient. Moi, je me souviens avec mon papa, il venait faire son tiercé. Moi, je jouais au baby, au billard, sur une chaise, je me souviens. Il me laissait dans un coin, on était là ensemble. Et j'observais la vie sociale, j'observais les adultes parler entre eux. Aujourd'hui, c'est fini et il est vrai que dans des endroits comme ça, où toutes les couches de la population se retrouvent, on retrouve cette forme de mélange et ça me fait chaud que je retrouve l'ambiance de ma jeunesse.
Qu'est-ce qu'on peut vous servir ?
Une terrasse. Et un monsieur là qui retrouve des copains apparemment. Je fais une émission sur la convivialité. Vous buvez un coup avec des copains. Quel est le plaisir d'être ici ?
Le plaisir, c'est qu'il y a un monde fou déjà. Moi, ça fait un moment que j'étais pas venu. C'est un rassemblement. Quand vous arrivez ici au marché de Vazem, bah là vous êtes comme une grande lessiveuse, et tout le monde tourne autour de... Voilà, on s'amuse, on dit bonjour à des gens qu'on ne connaît pas, regardez, là, il vient nous dire bonjour ce monsieur, on ne le connaît pas, et tous les gens se mélangent, les bourgeois, les moins bourgeois, les loques-dus, tout le monde se mélange, et dans la parfaite convivialité.
La pomme, la poire, 1 euro.
Tout le monde me dit ici, exit les écrans, ça fait du bien. Vous en pensez quoi ?
Bah moi franchement j'aime bien, c'est convivial, tout le monde se parle, ce matin on a parlé avec tout le monde. Franchement c'est un bon moment, même parfois j'y vais toute seule et j'adore.
même sans acheter forcément, c'est...
Juste pour le kiff, là, on va se prendre un petit poulet, on va... et carrément, on va manger dans le marché tellement c'est convivial, voilà.
Mais attendez, c'est pas possible. Tout le monde m'emploie ce mot, convivialité.
Bah, les gens, en semaine, ils ont pas le temps, tout le monde est dans son monde.
Trouvez-moi un autre lieu de convivialité. Ah, le Blanc. Oh, la Grébasse.
Il y en a plus beaucoup, hein.
Tic-tac, chercher.
Non, je vois pas. C'est vrai.
Voilà, et au son de l'accordéon, pourquoi pas tous ces lieux de convivialité, les marchés, les stades aussi, pourquoi pas, les cafés. Voilà pour ce micro ouvert de Sandrine Houdin. Le vivre ensemble au marché de Oisem, c'était à Lille. Quels sont les lieux qui font encore société parmi les Français? C'est donc le thème d'une semaine en France, jusqu'à 19h on en parle. Nos lieux communs, eh bien c'est aussi le titre d'un livre que vous avez coécrit, Martine Drost, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, vous êtes chercheuse au CNRS et à la Maison française d'Oxford, vous êtes spécialiste de la ville et votre livre a donc pour titre « Nos lieux communs, une géographie du monde contemporain » paru chez Fayard. C'est une sorte de radioscopie hein, de tous ces lieux qui façonnent notre quotidien, là où on se retrouve. Le point de départ de votre livre, c'était bien d'aller identifier tous les lieux où l'on vit ensemble.
Oui, c'était l'idée, c'était de raconter nos géographies, à la fois les plus ordinaires, les plus évidentes, ces lieux un peu banals dont on connaît finalement mal l'histoire, mais aussi de raconter des lieux un peu plus exceptionnels, plus extraordinaires. Mais on est parti de cette géographie très quotidienne et qui s'incarne dans ces lieux qu'on connaît tous, mais qu'on fréquente, mais dont on connaît pas forcément la diversité.
Ouais, on a parlé du bar en début d'émission. Qu'est-ce que l'on vient chercher dans un bar quand on rentre dans un bar PMU?
Alors on vient chercher plein de choses et puis là j'entendais dans le reportage, voilà, on se retrouve tous et tout le monde se retrouve dans la convivialité. Alors c'est vrai et puis pas complètement non plus parce que on le sait, voilà, tous les bars accueillent pas tout le monde. On vient souvent retrouver des gens qu'on connaît et des gens du quartier. Alors on rencontre parfois des nouvelles personnes bien sûr, mais il y a quand même aussi une forme de familiarité qu'on vient retrouver quand on va au bar.
Un mot sur la cour d'école, qui peut être à la fois un refuge comme un lieu d'exclusion.
Absolument, oui. C'est toute l'ambiguïté de ces espaces où tous les enfants se retrouvent. La cour d'école, c'est le lieu commun par excellence des enfants qui vont à l'école, mais qui ne se sentent pas tous à l'aise pour participer et l'occuper. Et c'est vrai qu'il y a souvent une prime à celui qui est le plus rapide. Souvent, c'est des petits garçons qui vont occuper l'espace de la cour. Et puis, les petites filles vont, ou alors les garçons qui sont un peu moins rapides, vont se sentir exclus. Il y a des moyens pour essayer de changer ça. Et c'est ce que raconte le chapitre sur la cour d'école, qui raconte toutes les petites installations qu'on peut mettre dans des cours d'école pour que justement les petites filles, les enfants moins rapides se sentent tout aussi autorisés à l'utiliser.
Un livre donc sur les lieux qui rassemblent. S'il y a des lieux qui rassemblent, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des lieux qui divisent.
Absolument, oui. Et c'est ce qu'on a voulu raconter, cette tension entre des espaces dont la fonction est de rassembler. Le parc, par exemple, la MJC, la rue de la Soif aussi, qu'on évoque, et qui est une forme de rue dédiée à l'activité nocturne et au bar. Et puis aussi des lieux qui, effectivement, ont pour fonction de diviser. On peut penser au mur, c'est assez évident, mais aussi des lieux auxquels on pense peut-être moins. Le club de golf, par exemple, qui est un lieu qui est ouvert, mais à certaines populations seulement.
Oui. Remarquez les stades aussi, avec les joueurs au centre et autour des tribunes pour les riches, des tribunes pour les moins riches. Qu'est-ce que le stade reflète de notre société de ce point de vue-là ?
Oui, tout à fait. C'est un très beau texte écrit par Nicolas Maizetti, qui est sociologue et qui raconte de façon très incarnée sa propre expérience dans les stades et dans les tribunes en particulier. Et c'est vrai que le stade aujourd'hui, c'est probablement un des endroits qui réunit le plus de monde autour des activités sportives, d'aller voir le spectacle du sport. Mais c'est aussi un espace qui est très hiérarchisé socialement. Les prix déjà sont différents dans la tribune. Il y a les tribunes au ras du sol où on va pas forcément bien voir le match, mais on se retrouve. Et là, c'est les places les moins chères. Et puis, il y a la tribune présidentielle qui, comme son nom l'indique, est plutôt réservée aux VIP.
Et puis quand on évoque le vivre ensemble, dans votre livre, il y a des lieux moins attendus. Je pense par exemple aux aérogares et autres lieux de passage ou d'attente. Que révèlent les halls de gare sur notre façon de vivre ensemble ?
Alors d'abord que ce sont des lieux qui sont empruntés, mais dans lesquels on ne s'arrête pas. Et ça, c'est vrai que c'est l'évolution contemporaine de ces lieux. C'est quand on les ingénieurs qui les conçoivent pensent souvent en fait à faire circuler au maximum les personnes. Et par exemple, si on prend les gares du Grand Paris, qui sont des gares qui viennent, qui vont bientôt ouvrir, ça a été très difficile pour les architectes de proposer des espaces qui étaient des espaces où on peut attendre des gens qui sortent de la gare ou se retrouver pour passer un moment ensemble, parce que du côté des concepteurs, eh bien, l'idée c'est au contraire de maximiser les flux, de faire circuler les gens et que surtout ils ne s'arrêtent pas.
Et puis j'ai repéré dans votre livre aussi quelques lieux que l'on préfère cacher. Je pense à la décharge. Qu'est-ce qu'une décharge donne comme indice de la façon de vivre des Français ?
Et oui, la décharge, c'est un peu le non-lieu, plus que le lieu commun. Et en même temps, c'est un lieu assez, assez essentiel de nos vies contemporaines et puis de nos sociétés où la consommation est devenue tellement centrale. Bah, ce que les décharges racontent, c'est cet envers du décor de la société de consommation. Alors, elles prennent toutes sortes de formes. Elles sont parfois à ciel ouvert. Et puis, aujourd'hui, il y a ce grand continent de plastique qui flotte dans l'océan et qui est le symbole très matériel de tout ce qu'on on rejette dans l'espace commun, qui est un exemple de cette société de consommation et de sa production.
Un dernier mot concernant les discothèques. Il y a encore quelques années, on allait en boîte de nuit pour tenter de multiplier les rencontres, amoureuses si possible. Sauf que la discothèque semble aujourd'hui passer de mode. Qu'est-ce qui l'a remplacée d'ailleurs ?
Alors c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à se dire que s'il y a moins de discothèques, et effectivement le nombre a considérablement diminué dans les dernières années, c'est peut-être parce qu'on fait plus la fête chez soi, mais il y a aussi une autre hypothèse qui est que le nombre de lieux de loisirs s'est multiplié, les salles de concert, mais aussi par exemple les salles de jeux d'arcade, on l'évoque dans l'ouvrage. Donc il y a peut-être une multiplication des lieux de loisirs qui font que la discothèque n'est plus l'endroit où privilégier où on va sortir et où on va aussi privilégier peut-être une fête où on se retrouve entre nous et faire la fête chez soi.
Eh bien, merci de ces explications. On parlait des bars PMU, j'en profite pour signaler ce livre qui s'appelle « Sur la route des bars PMU, 22 itinéraires pour redécouvrir la France ». Le livre est paru aux éditions Fooding. Merci beaucoup Martine Drozd, géographe spécialiste de la ville, chercheuse au CNRS et à la Maison française d'Oxford. Et je renvoie donc à votre livre que vous avez co-signé, « Nos lieux communs, une géographie du monde contemporain ». Le livre est paru chez Fayard.
جيت لهاد الدنيا يسقسوني على لون عيني منين أصلي منين ما شافوا واش غرست يديا والشمس تحرق فيا وراج فيا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرضك نوز ردة عطيني قدر باش نولي حر
Enfant des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais jettera l'encre. Là où je vais, mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici, de là-bas, je pars, je reviens, le destin d'une vague. Dessiner le large, les couleurs baillent à la soif d'Asiad Djebel. Le cœur qui bat, qui parle et qui s'éveille. Au goût du sel de mer et du soleil. Ton sang, le mien, rouge pareil.
là-bas, c'était Souad Massi avec Gaël Faye. Et c'est le choix de Djoubaka.
France Inter, le 18-20.
La suite d'une semaine en France consacrée à tous ces lieux qui font société en France. On a entendu en début d'émission le témoignage du patron du bar PMU du Mans. On va y retourner au bar PMU avec cette fois un regard plus sociologique. Bonsoir Jérémy Pelletier.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès et vous avez sillonné la France l'an dernier pour mener avec l'IFOP une étude sociologique sur les PMU. Les PMU sont fréquentés, je crois, par 11% de la population française. Alors, je vous pose la même question qu'à notre patron de bar en début d'émission. Que viennent chercher les 7 millions de clients qui, chaque jour, poussent la porte d'un bar PMU ?
Ouais, chaque jour, un bar PMU, il y en a 14 000 en France. En fait, ce qui est colossal, ce qui est considérable, et c'est vrai qu'on a l'impression, et je pense que l'impression est juste, que le PMU fait partie finalement du patrimoine national, parce qu'en effet, il y a un maillage territorial fou, et finalement, il n'y a pas un territoire dans lequel il n'y a pas un bar PMU. Certains territoires en ont beaucoup, certains un peu moins, mais d'une façon générale, il y a un maillage très important, et donc tout le monde finalement peut avoir un rapport avec un bar PMU. Et ce que les gens viennent chercher, le patron du bar PMU du Mans l'a très bien dit, en effet, il l'a répété beaucoup, c'est la convivialité, c'est la chaleur. Et nous, dans l'étude en effet qu'on a menée auprès des commerciaux, auprès des clients, évidemment, à travers ce qu'on a appelé des bistrots au comptoir, on a été les écouter, leur parler à échelle de comptoir, on a écouté aussi les patrons. Et effectivement, ce qui revenait beaucoup, c'était ce côté chaleur, c'est-à-dire on rentre dans ce bar PMU parce qu'on retrouve de la chaleur. Ça, c'était un élément important. Le deuxième élément qui revenait beaucoup, c'était finalement le fait que dans le bar PMU, on retrouvait ce qu'on avait plus de mal à retrouver à l'extérieur, en l'occurrence une forme de civilité élémentaire, en gros, et pour le dire avec d'autres mots, une forme de politesse qu'on ne retrouve plus à l'extérieur. Il y a beaucoup de clients qui nous ont dit cette phrase « J'aime bien ici parce que ici on dit bonjour ». Et donc, quand on tire le fil avec eux, finalement, ce qu'ils nous disaient, c'était oui, en fait, dans la société d'une façon générale, dans l'espace public, on fait de moins en moins attention à autrui. Et finalement, ces petites attentions faites de politesse un peu traditionnelles ont tendance à disparaître. Alors qu'au bar PMU, on dit bonjour, le tutoiement arrive assez facilement. Et ça, c'est un élément, effectivement, que les clients aussi nous ont beaucoup répété. Ici, c'est sympa parce que le patron nous tutoie régulièrement. Donc, il y a cette forme aussi de chaleur, de convivialité. Et le troisième élément, et ça, c'est un élément très important parce que ça permet aussi de rappeler qui sont aussi les gens qui viennent dans les bars PMU. Parce que c'est pas tout le monde. Alors oui, il y a une forme de mixité, c'est vrai, le patron l'a dit. Mais c'est quand même beaucoup plus les classes populaires. C'est quand même beaucoup plus certaines catégories, les artisans, les indépendants, les personnes qui exercent des travaux manuels. Et finalement, ils viennent dans les bars PMU parce qu'ils ont l'impression finalement d'être un peu plus protégés à l'intérieur de ces bars par rapport à l'extérieur. Et en gros, il y a une phrase, et je m'arrête là, qui m'a beaucoup intéressé. Un des clients dit « Ici, on peut s'asseoir où on veut ». Ce qui signifie qu'ici, on ne nous dit pas où on doit s'asseoir, alors que dans le reste de la société, dans les autres bars, on nous dit où on doit s'asseoir. Et ça, je trouvais ça très intéressant.
Pour résumer, vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelque chose de rassurant pour les classes populaires qui vont prendre le café ou autre chose dans les bars PMU.
Ouais, il y a quelque chose de rassurant, quelque chose de l'ordre du moment de quiétude, du moment un peu séparé du reste, où on peut se reposer. D'ailleurs, au moment des pauses, dans une journée de travail, c'est des éléments qui reviennent beaucoup, en tout cas dans les personnes qu'on a interrogées. C'est le moment où on vient faire une pause, c'est le moment finalement où on vient effectivement se reposer sans avoir peur qu'on nous dégage et qu'on nous vire. Et ça, c'est un élément qui revenait beaucoup. Ils nous disent, dans un PMU, on peut prendre un café, rester 2 heures, 3 heures, et personne ne nous mettra à la porte. Et ça, c'est en effet une forme de safe space finalement pour les catégories populaires, et il y en a peu en fait dans la société.
On parlait depuis le début de mixité. Est-ce que le bar est vraiment un endroit où l'on se mélange, ou est-ce que finalement ce lieu ne reproduit pas ce qui se passe ailleurs de ce bar, avec des codes sociaux les mêmes à l'extérieur qu'à l'intérieur ?
Alors, globalement, tous les clients qu'on a interrogés, et aussi les patrons, ont tous le sentiment d'une mixité. Et ça, c'est un élément qui est très important.
Le sentiment d'une mixité n'est pas forcément une mixité.
Absolument. En tout cas, quand on les interroge, globalement, tout le monde dit ici, ça brasse beaucoup de gens, des gens de différentes origines, des gens de différentes générations, des gens de différentes classes sociales. Mais parce que ce sentiment-là, en gros, est alimenté par le fait que parfois, dans le PMU, vous avez un élu local du coin qui va passer parfois une tête une fois dans la semaine. Vous allez avoir un avocat ou un médecin pareil qui va venir prendre un café à un moment donné. Et donc, effectivement, cet élément-là, qui est malgré tout une forme de mixité, mais donne le sentiment, en effet, d'une diversité régulière au sein des bars PMU. Force est de constater, quand on tire le fil, et vous l'avez dit, en effet, on a mené aussi une petite enquête quantitative pour savoir qui venait dans les bars PMU. Globalement, vous avez un Français sur 10 qui dit, ce qui est beaucoup, hein, qui dit venir au moins une fois par semaine dans les bars PMU, mais quand vous interrogez uniquement les classes populaires, là, c'est x2. Donc, effectivement, impression d'une mixité, impression d'université, mais globalement, les catégories qu'on trouve beaucoup, c'est les catégories populaires, les classes moyennes inférieures, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il faut bien le dire aussi, ça c'est un élément qui est très important. D'ailleurs, le patron du PMU du Mans tout à l'heure l'a dit, il dit « ces messieurs, je suis un peu leur psy ».
Ces messieurs et pas ces dames.
Donc en effet, ça évolue gentiment. Il y a de plus en plus de patronnes de bars, de plus en plus de patronnes de PMU qui font aussi ce travail-là pour accueillir davantage de femmes. Et donc d'abord avant tout des classes populaires, plus d'hommes que de femmes et des catégories un peu plus âgées quand même et moins de jeunes globalement dans ce qu'on retrouve dans les PMU.
Parce qu'il faut rappeler peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas toujours bien vu pour une femme de rentrer dans un bar.
Oui, absolument. D'ailleurs, beaucoup de femmes, nous, qu'on a interrogées, disent, en gros, quand je rentre dans le PMU et qu'il n'y a aucune femme et que je vois juste des bandes de mecs, bon, j'ai tendance à faire marche arrière. Et si je veux aller dans le bar PMU, je demande à une copine de venir avec moi ou j'essaie d'y aller en groupe. Donc, en effet, mais globalement, ça a tendance quand même à évoluer positivement, ça a tendance à progresser, notamment parce qu'en effet, il y a ces patronnes de PMU qui œuvrent utiles de ce point de vue-là et aussi parce que les patrons, d'une façon générale, voilà, on fait un effort aussi en matière d'hygiène. L'élément qui revenait beaucoup dans l'enquête qu'on a menée, c'est globalement, bah, avant, les femmes avaient du mal à venir parce que les toilettes étaient un peu à l'ancienne, un peu sales. Et pour le coup, ça évolue assez positivement dans certains PMU pour faire en sorte que les femmes aussi aient leur place. Et il faut aussi le dire, on vient dans un PMU pour jouer. Et pour jouer notamment au tiercé. Et la culture hippique, pour le coup, est une culture, en effet, beaucoup plus masculine que féminine. Et donc, ça joue aussi beaucoup sur cette différence-là genrée dans les PMU.
Est-ce que finalement, on parle de politique dans un bar, et un bar PMU notamment, parce qu'on a parfois le sentiment que le sujet reste tabou, le sujet politique?
Alors, c'est une question qui est très intéressante. Alors, le patron du PMU, là, du Mans, a dit...
Commerce, je ne me prononce pas. Moi, j'en parle pas, il disait.
Il dit, moi, j'en parle pas, mais il dit, mes clients en parlent. D'une façon générale, nous, en tout cas dans tous les entretiens qu'on a menés, dans cette vingtaine de PMU dans lesquels on s'est rendu, globalement, la politique ne faisait pas partie des sujets de discussion principale. On parlait... Alors, on pouvait parler de politique locale, dans le sens la voirie, les questions d'urbanisme, des questions, je dirais, de l'ordre du fait divers local.
Proximité.
Proximité, bien aidée d'ailleurs par la lecture de la presse, la PQR, et d'ailleurs, le patron du bar du Mans, en effet, l'a très bien évoqué, en disant qu'il vendait aussi, lui, de nouveau, la presse dans son PMU. Ça, en effet, c'est un élément de discussion régulier. Mais, d'une façon générale, on laisse quand même un peu la politique à côté de la discussion. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on ne veut pas que ça s'envenime. Parce que, et ça c'est un élément qui est très intéressant et les clients nous ont tous dit, nous justement on veut que ce moment où on vient dans ce PMU, forme de rituel qu'on a de façon hebdomadaire ou quotidienne, on veut que ce soit un moment à part où justement on laisse un peu de côté les problèmes de l'époque, les problèmes politiques, les problèmes de famille aussi, donc on parle pas de politique, on parle pas de la famille. La politique, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'en effet, et le patron du bar l'a dit tout à l'heure, comme il y a quand même malgré tout une diversité de personnes, il y a une diversité de points de vue, tout le monde ne vote pas évidemment pour le même candidat ou pour la même couleur politique, donc on évite en effet d'en parler pour pas que ça soit unanime, sauf sur un sujet, et ça c'était un élément qui était très intéressant. Gounis, le seul sujet qui fait à peu près consensus et sur lesquels on peut un peu disserter et discuter, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que globalement, tout le monde en dit du mal, et globalement, c'est le seul sujet aujourd'hui qui fait consensus dans les PMU s'agissant de la politique. Mais sinon, en effet, on a plutôt tendance à le mettre sur le côté, parce que on ne veut pas s'engueuler, en fait, avec ce que les gens appellent les camarades de PMU. Nos camarades de PMU sont là, d'abord avant tout, pour nous faire penser à autre chose, et donc on n'est pas là pour se faire des problèmes.
On entend parfois que la France est bousculée, même certains médias entretiennent cette image de déclin, de fracture et de défi. Les Français sont-ils encore puissamment reliés entre eux malgré tout ?
Alors, tout est dans le puissamment. Je pense qu'il y a un certain nombre de fractures réelles qui sont liées d'ailleurs aux fractures sociales, aux fractures économiques et en gros aux inégalités sociales et économiques qui en fait empiètent sur la cohésion sociale, qui empiète sur la cohésion nationale. Et en effet, on se rend compte depuis maintenant 10 ou 15 ans que vous avez un public, notamment les classes moyennes inférieures, dans une forme de déclassement, qui sont dans une spirale de déclassement. Et ces éléments-là, liés aux inégalités de patrimoine, aux inégalités salariales, aux inégalités sociales, ont tendance à abîmer justement cette cohésion sociale, cette cohésion nationale. Donc, d'une façon générale, il y a quand même des fractures liées à la fracture sociale. Maintenant, il y a quand même des aspirations majoritaires, en effet, qui existent encore en France, et une qui est très importante, et nous, on le voit dans les enquêtes, c'est l'aspiration à la quiétude et à l'apaisement. Ça, c'est un élément qui fait consensus aujourd'hui en France, et à mon avis, que les responsables politiques n'ont pas assez entendu, parce qu'il y a de quoi faire du commun à travers la recherche d'apaisement, de quiétude et de calme dans une société parfois un peu trop bordélique.
Merci beaucoup de votre regard, Jérôme Pelletier, co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès, et je renvoie à toutes vos études donc sur le site de cette Fondation Jean Jaurès. Voici Feist sur Inter. Unpacking the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. Oh, 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 but in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Boom, la chanteuse canadienne Feist. La suite et la fin d'une semaine en France. Je présente l'équipe. Charline Legris à la rédaction en chef. Juliette Gou à la réalisation. Benjamin Ducy m'a aidé à préparer cette émission. À la technique ce soir, Florian Dorimini, Julien Dumont et Élise Christophe, que j'embrasse. Une bise toute particulière pour ta dernière, Élise. À suivre, le multiplex.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
L'actualité en région, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI, nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI RCFM, ICI Nord et ICI Périgord, Didier Arnoux, Antoine Barège, Charlotte Jousserand. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
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 On va commencer avec notre rendez-vous hebdo des municipales en Corse, Didier Arnoux. Dans les petites et moyennes communes, eh bien, il n'y a pas toujours une opposition au maire sortant.
Ouais, pas de combat, faute de combattants. Pour les petites communes, celles de moins de 1000 habitants, on va dire, la loi sur la parité et la fin du panachage ont fait des ravages. Par exemple, dans un petit village du centre Corse, qui compte 5 habitants à l'année et 23 électeurs inscrits, c'est juste impossible de faire deux listes de 7 candidats en respectant en plus la parité. Alors, cet exemple, sachez qu'il se vérifie dans 90% des communes de Corse qui n'ont pas suffisamment de matière pour faire plusieurs listes.
Alors, ça, c'est les villages les plus petits. Qu'en est-il des communes moyennes ?
Alors là, on touche vraiment à la crise de vocation profonde, hein, liée au poids de la charge, et elle est encore plus lourde en Corse, puisque dans l'île, les candidats potentiels sont prévenus d'entrée de jeu des contraintes juridiques, administratives avec lesquelles ils vont se battre durant leur mandat. La Corse est soumise à la fois à la loi littorale et à la loi montagne. Bon, c'est logique, puisque la Corse, c'est une montagne dans la mer. En plus de la réglementation classique, question urbanisme, là, c'est le pompon, c'est un casse-tête pour élaborer un PLU, à tel point qu'on n'est pas loin de fêter un plan local d'urbanisme qui n'est pas annulé par le tribunal administratif. J'exagère, mais à peine. Donc, déjà, ça calme les vocations pour les encourager. On sait que le Parlement a créé un statut de l'élu local qui augmente un petit peu les indemnités et facilite le retour à la vie professionnelle, mais pas sûr que ça suffise. En tout cas, ça n'a pas suscité d'engouement en Corse pour cette élection municipale.
Et après la Corse, une grande ligne droite jusqu'à Lille, Antoine Barège avec ce soigneur de l'aquarium Nausicaa qui a été mordu par un requin.
Oui, Nausicaa, c'est le plus grand aquarium d'Europe. Il est situé sur le port de Boulogne et il fête cette année ses 35 ans. Et en 35 ans, on n'avait jamais connu un tel accident. Samedi dernier, alors que Nausicaa est fermé pour entretien, un soigneur plonge dans l'aquarium géant avec plusieurs collègues pour une manipulation médicale de routine. Et au moment des soins, une femelle requin gris se retourne brusquement et attaque le soigneur âgé d'une trentaine d'années. L'animal attrape la main avec sa mâchoire. Heureusement, le salarié de Nausicaa a une protection en côte de maille. Protection pas suffisante, il a une énorme plaie et perd beaucoup de sang. Le soigneur est transporté vers une clinique SOS Main à Calais. Aujourd'hui, il va bien, précise l'aquarium. Il a même pu venir voir ses collègues cette semaine. Alors le requin, qui mesure environ 1,70 m, était en fait malade. Il était suivi depuis plusieurs semaines pour des problèmes de santé. Il est d'ailleurs décédé lundi, mais sa mort n'est pas liée à l'incident avec le soigneur, précise Nausicaa. Une nécropsie a été pratiquée. La direction espère que cet épisode malheureux, digne des Dents de la Mer, n'aura pas de conséquences sur la fréquentation, car Nausicaa, qui rouvre demain au public, se porte très bien. En 2025, l'aquarium boulonnais a accueilli 900 000 visiteurs.
Antoine Barège à Lille, à Périgueux à présent, Charlotte Jousserand. Un cold case vieux de 30 ans vient de rouvrir, celui du disparu de la 12.
Didier Seignol disparaît ce soir de janvier 94. Ses parents l'attendent à la 12. Après son entraînement de foot, on ne retrouve que sa voiture abandonnée sur un parking. Affaire classée rapidement, puis rouverte il y a quelques semaines, 32 ans après, par le pôle cold case de Nanterre, avec une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs qui se sont replongés dans le dossier ont même trois suspects, dont un homme mort aujourd'hui, ex-agent municipal sur nommé Kakali. Il avait un casier pour un guet-apens très violent, décrit le parquet du pôle cold case. Les enquêteurs pensent que Didier Seignol a été lui aussi victime d'un guet-apens lié à un conflit entre ses parents et leurs voisins. D'après l'enquête, Kakali n'a pas agi seul. Il y aurait deux autres suspects.
Et aujourd'hui, dans cette commune de la 12, comment réagissent les habitants à cette reprise de l'enquête ?
Alors il y en a un qui est soulagé et ému, c'est Thierry, ancien cantonnier, proche de la famille de Didier Seignol. Il a toujours cru à la thèse du guet-apens. Pendant toutes ces années, pendant 32 ans, il a fait des allers-retours à la gendarmerie dès qu'il récoltait une info sur l'affaire. Car à la 12, certains habitants ont avoué aux reporters d'ici Périgord qu'ils savaient, mais qu'ils avaient promis de ne rien dire pour ne pas diviser le village. Le maire de la 12 aimerait que les gens parlent enfin pour libérer la commune. Il souhaite organiser une marche blanche en mémoire de Didier Seignol.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos amis du réseau ICI. À suivre le journal de 19h d'Amélie Perrier. Et puis à 19h20, le téléphone sonne. On va évoquer la cartographie du trafic de drogue en France. Alors que le cannabis est encore la drogue la plus consommée, le chiffre d'affaires du marché de la cocaïne est, lui, passé devant celui du cannabis. Vos questions 01 45 24 7000.